Nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite aujourd'hui à quelque chose d'incongru. En effet, je vous propose de méditer sur un passage d'un évangile qui n'est pas dans nos Bibles, qui est l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas est connu depuis à peu près un siècle par quelques fragments en grec, et intégralement depuis la découverte à Nag Hammadi d'un manuscrit copte dans les années 50. Cet évangile est en tout cas très ancien, même dans sa dernière rédaction, et fait appel à des sources apparemment indépendantes de celles des quatre évangiles que nous connaissons, et qui apparemment remontent très très loin, et probablement même jusqu'à des choses très proches du Christ lui-même. Cet évangile, à sa découverte, n'a pas été rajouté dans nos Bibles, parce qu'il se trouve être teinté d'une certaine tendance un peu gnostique, c'est-à-dire dualiste. Et donc on peut penser que ceux qui ont écrit cet évangile avaient affaire à un matériau extrêmement original et très proche du Christ, mais que dans sa rédaction, il y avait une tendance théologique qui était un peu différente de celle de nos quatre évangélistes. Dans cet évangile de Thomas, il y a de très nombreux passages qui sont parallèles et qui sont les mêmes que ceux que nous trouvons dans les évangiles dits synoptiques de notre Bible. Et nous pouvons voir alors qu'en fait, il est d'extrêmement bonne qualité, c'est-à-dire que quand on trouve des passages parallèles, c'est dit pratiquement de la même manière, avec simplement un texte qui est souvent un peu moins précis, un peu moins soigné, dirais-je, que ceux que nous connaissons, mais en fait, tout y est. Or, il se trouve que dans l'évangile de Thomas, il y a quelques passages qui n'ont pas de parallèle dans nos synoptiques. Et en particulier, il y a eu un certain nombre de paraboles qui sont absentes, que nous ne connaissons pas, et qui sont probablement tout aussi authentiques que les autres. Et c'est sur une de ces paraboles donc inédites, ou bien souvent inconnues, que je vous propose de méditer aujourd'hui. Pour un protestant, ce n'est pas un problème, je crois. Parce que vous savez que, contrairement à ce que disent les musulmans, nous ne sommes pas la religion du livre, mais nous sommes la religion d'un individu qui est Jésus-Christ. Et ce en quoi nous croyons, c'est Jésus-Christ. Et je crois que par conséquent, tout ce qui peut nous permettre d'approcher le Christ de plus près est intéressant. Les évangiles que nous avons là sont les faits d'une tradition, sont les faits d'un certain nombre de gens qui, dans l'Église, ont décidé arbitrairement qu'on devait mettre tel et tel texte et pas tel autre. Mais ce choix est arbitraire et ne correspond à rien de divin. Le canon, c'est-à-dire notre Bible, n'est pas tombé du ciel comme quelque chose de fermé où il y aurait ce qui est bien qui est dedans et ce qui est mauvais et qui est à l'extérieur. Et je crois que nous avons le droit donc de lire avec respect, mais aussi avec précaution, tout texte, qu'il soit ou non dans l'Écriture. Pour vous aider, j'ai glissé dans les bancs un certain nombre de ces textes. Il n'y en a pas pour tout le monde, alors partagez pour ceux qui ont envie de voir de plus près. Voici donc cette parabole des petits-enfants dans le champ. C'est suivi d'un autre passage sur les petits-enfants que l'on trouve aussi dans les synoptiques, mais qui est agrémenté d'une précision qui ne manque pas d'intérêt. Marie dit à Jésus: « À qui ressemblent tes disciples ?» Et il répondit: « Ils ressemblent à des petits-enfants installés dans un champ qui n'est pas à eux. Quand les maîtres du champ viennent, ils disent « Laissez-nous notre champ !» Ils se dévêtent nus en leur présence, alors ils le leur laissent et ils leur donnent le champ. » Et ses disciples dirent ceci: « Quel jour te manifesteras-tu à nous, et quel jour pourrons-nous te voir ?» Jésus dit ceci: « Lorsque vous vous dévêtirez nus, sans avoir honte, et que vous ôterez vos vêtements et les mettrez sous le sol de vos pieds, comme ces petits-enfants, et les piétinerez, alors vous verrez le Fils du vivant, et vous n'aurez pas peur. » Ainsi donc, la première chose que nous dit cette parabole inédite, c'est qu'être disciple du Christ, ce serait être comme des petits-enfants qui sont installés dans un champ qui ne leur appartient pas. bien peut-être que ça ne vous saute pas aux oreilles, mais moi je trouve que c'est extrêmement intéressant comme idée. Parce que nous voyons que être chrétien, fondamentalement, c'est être comme des enfants dans un champ qui ne leur appartient pas. Et le Christ n'a pas l'air de dire que c'est pas bien, qu'il ne faudrait pas. Il dit que c'est même comme ça, finalement, que nous devons vivre notre relation à Dieu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que cela signifie que être disciple du Christ, cela signifie que nous sommes appelés à profiter de quelque chose qui peut produire du bon fruit, qui peut produire du bien-être, du bonheur, de la joie, tout ce que peut donner un jardin, mais qui ne nous est pas dû et qui ne nous appartient pas. Et il y a là, je crois, une très belle image de la grâce première. La grâce première, c'est que Dieu nous permet de profiter de son amour, de son salut, de sa présence, de son pardon, alors que cela ne nous appartient pas. Nous n'avons aucun droit. Nous ne pouvons prétendre à rien pour dire que Dieu nous appartient, que le salut nous appartient, que la joie, que le bonheur de Dieu nous appartiennent. Tout cela ne nous appartient pas. Et ce que nous dit le Christ, c'est que nous sommes invités à nous installer dans cette grâce de Dieu, dans cet amour de Dieu, dans ce pardon de Dieu, alors même que cela n'est pas à nous. Et nous pouvons même user de cette grâce, user de cet amour de Dieu, user de cette présence de Dieu, finalement, comme si c'était à nous. Dieu nous autorise à cela, et même il nous y encourage. Mais c'est donc le premier point. Et en effet, cela montre, je crois, quelque chose que les chrétiens veulent signifier depuis toujours par le baptême. En effet, quel droit ont Thomas ou Hippolyte d'être dans la grâce de Dieu? Est-ce que cette grâce leur appartient? Qu'ont-ils fait pour la mériter? Est-ce qu'ils ont travaillé? Est-ce qu'ils l'ont payé? Par quoi? Par des bonnes œuvres? Par des mérites? Non, ils ne l'ont pas mérité, pas plus que nous d'ailleurs. Et donc nous sommes tous finalement, aucun de nous n'avons plus de mérite que quels que soient ces petits-enfants, peut-être même en avons-nous moins, parce qu'en plus eux n'ont pas fait beaucoup de péchés, alors que nous, nous en avons fait. Mais ce que dit le Christ, c'est que le champ de Dieu, ce bonheur, cette grâce, eh bien, nous devons nous y installer, ne pas les regarder de loin. Mais il dit, allez-y, c'est là, ça vous est proposé, vous avez le droit d'y être. Et même être chrétien, ça n'est pas regarder le salut de Dieu comme quelque chose qui serait éloigné de nous-mêmes. Ce n'est pas le regarder comme quelque chose que nous devrions gagner en se disant, tiens, il y a là, un peu plus loin, l'amour de Dieu, le salut, le pardon. Je vais essayer d'y aller, je vais essayer de le gagner, je vais essayer de le mériter. Non, la porte est ouverte. Et vous n'avez qu'à vous y installer. Et être chrétien, c'est la première chose. C'est accepter que nous sommes aimés, que nous sommes sauvés, que nous sommes pardonnés par Dieu, que nous le méritions ou non, cela nous est offert. Mais pas de n'importe quelle manière. Je crois qu'effectivement, nous sommes invités à nous installer dans la grâce de Dieu, mais pas de n'importe quelle manière. Nous devons le faire comme des enfants. Comme des petits-enfants. Alors des petits-enfants, quand ils vont s'installer dans un champ, comment le font-ils? On peut essayer de réfléchir à cela. Eh bien, je crois que ce qui est remarquable, c'est que des petits-enfants qui vont s'installer dans un champ le font, je dirais, avec bon esprit. Ils ne le font pas en se disant, tiens, je vais lui prendre son champ, et puis ensuite, si j'arrive à m'y installer pendant 10 ans, je ferai un procès au propriétaire pour lui dire que maintenant ce champ m'appartient. Pourquoi l'enfant va dans un champ ou dans un jardin? Parce qu'il s'y trouve bien, parce qu'il est heureux là, parce qu'il y a des fruits à cueillir, parce qu'il y a des fleurs à regarder. Et donc le petit enfant s'installe dans un champ en toute simplicité, je dirais, sans chercher à voler, sans chercher à l'accaparer, sans chercher à dépouiller celui qui possédait le champ de sa propriété. Mais il y va simplement parce qu'il y est bien. Et je crois que, effectivement, nous pouvons aussi, comme des petits-enfants, nous installer dans la grâce, non pas en se disant « je vais la voler, me l'accaparer, me la prendre » ou « je prends quelque chose qui ne m'appartient pas », sans mauvais sentiments, avec simplicité d'esprit. La barrière de la grâce est ouverte, allez-y dedans. Et à partir de là, profitez de la bonté de Dieu, profitez de l'amour de Dieu et vivez de tous ces bons fruits que donne la présence de Dieu. Cela vous est offert, cela vous est donné, il n'y a pas de problème. La grâce n'est pas un champ merveilleux à regarder de loin en se disant « j'aimerais bien y être ». La grâce, ça n'est pas le paradis, puisqu'en fait je pense que ce champ, c'est le paradis même, c'est l'Éden, c'est le paradis d'Adam et Ève. Le paradis, ça n'est pas quelque chose que l'on regarde de loin en se disant « ah, ça serait bien si je pouvais y être » ou en se disant « ah, peut-être l'aurai-je quand je mourrai ». Non ! Le paradis, les portes depuis le Christ sont ouvertes. Installez-vous dans le paradis. Allez-y, vous pouvez y aller. Ça vous est offert gratuitement. Cette présence de Dieu vous est donnée sans condition. Et comme dirait ce beau verset d'Ésaïe 55, « Venez, mangez, buvez, sans argent, sans rien payer. Cela vous est offert. » Alors voyez-vous, rien que ça, ben je crois que ça valait la peine de lire. Mais c'est après que ça se complique un petit peu. Parce que ça, c'est la grâce première. Mais la question ensuite, c'est de savoir comment demeurer dans cette grâce. En effet, il ne suffit pas d'être baptisé pour avoir la plénitude de la grâce de Dieu toute sa vie. Et il ne suffit pas de se dire, ah ben, tant mieux, puisque Dieu m'aime et me pardonne, je n'ai plus aucun effort à faire. La question, c'est de savoir comment on peut demeurer dans la grâce. Et je crois que c'est une question qui est traitée d'ailleurs bien souvent dans l'Évangile. Et là, c'est dit d'une autre manière qui est intéressante. Parce qu'à partir d'un certain moment, se pose quand même la question de la légitimité. Bon, vous êtes aimé, pardonné par Dieu, vous êtes gracié. Comment vais-je faire pour que cette grâce demeure et pour qu'en quelque sorte, je puisse être un peu quand même propriétaire de cette grâce, qu'elle soit à moi et qu'on ne puisse pas simplement me dire « vous ne la méritez pas et c'est pas à vous et vous risquez de vous faire mettre dehors ». Là, ça devient compliqué parce que le texte est obscur, mais il y a néanmoins une chose qui est claire, dirais-je, c'est que les petits-enfants, ce qui va tout changer, je dirais, ce qui va faire que finalement ils peuvent rester dans le champ, c'est, nous dit-on, chose bizarre, qu'ils se mettent tout nus, ils se déshabillent. C'est pour ça que j'ai voulu lire cet autre passage un peu plus loin dans le même évangile de Thomas où l'on nous dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme les petits-enfants, et ça on le prêche à chaque baptême en disant parce que les petits-enfants sont purs, ils n'ont pas de péché, ou ils sont très, enfin bref, ils sont pleins de qualités. Et là l'évangile de Thomas dit non, ce qui est remarquable chez le petit-enfant qui vient de naître, c'est qu'il est tout nu. Il est né tout nu. Et en fait, il faut redevenir comme ces petits-enfants et savoir se remettre tout nu. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et en tout cas, je crois que cela veut dire que si nous voulons ensuite conserver cette grâce, conserver les bienfaits de la présence de Dieu et de tous ces fruits d'amour, de paix, de pardon, de joie et de force, eh bien nous devons nous mettre tout nus devant lui. Ah, cela peut évoquer plusieurs choses en ce qui me concerne. Tout d'abord, se mettre tout nu, on peut dire que cela signifie renoncer au paraître, renoncer au visible, renoncer à l'apparence. En effet, le vêtement, c'est ce que nous essayons de montrer aux autres pour faire bonne apparence, c'est ce que nous présentons aux autres. Et renoncer au vêtement, c'est peut-être se dire, finalement, je me fiche de paraître ceci ou cela, j'accepte d'être comme je suis. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, on le trouve dans l'Ancien Testament, quand Dieu choisit David comme roi, et Samuel dit « mais il est tout petit ». Et Dieu dit « mais tu sais, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, hein, parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Et peut-être qu'il y a là une première attitude de sagesse qui consiste à ne pas essayer de croire que nous puissions avoir la moindre importance en fonction des vêtements, en fonction des choses extérieures, matérielles que nous accumulons dans notre vie. Les vêtements sont parfois signes de fonction d'abord. Nos fonctions dans ce monde ne valent rien et ne donnent aucune valeur à notre être. Les apparences de richesse, de grandeur, d'importance que nous donnons au monde n'ont aucune importance. Et nous ne pouvons bénéficier de la grâce et de l'amour de Dieu que si nous acceptons de renoncer à la prétendue importance que pourraient nous donner toutes ces choses humaines, terrestres et matérielles. Et lorsque nous acceptons de nous regarder tout nus en disant « La seule importance que j'ai, elle est en moi-même. Ma seule richesse, elle doit être en moi-même. Et la seule grandeur que je puisse avoir, c'est lorsque je me débarrasse de toutes mes prétentions extérieures et terrestres. » Nous avions trouvé ce thème déjà lorsque, prêchant sur la guérison de l'aveugle de Jéricho dans Marc, on voyait que l'aveugle était guéri au moment où il abandonnait son manteau pour se lever tout nu à la suite du Christ, et que c'est alors que tout à coup il pouvait voir, alors qu'avant il était aveugle. Bon, ce thème de la nudité, on peut aussi le retrouver autrement avec ce texte que je vous ai lu d'Adam et Ève, et de dire que Adam et Ève ont été chassés du paradis, comme les enfants risquaient d'être chassés du champ, enfin du jardin en quelque sorte. Hein. Pourquoi Adam et Ève ont été chassés ? Parce que on nous dit qu'ils avaient honte de leur nudité. Ils étaient nus, bon, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils en avaient honte et qu'ils ont essayé de se faire des pagnes avec des feuilles de vigne. Et Dieu a dit non, non, ça ne marche pas. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et Dieu a refusé ce masquage hypocrite pour leur faire lui-même des pagnes de cuir, des pagnes de peau, dirais-je. Et en hébreu, le mot peau veut dire le mot nu. Donc finalement, Dieu les habille de nudité, il ne les habille pas, en quelque sorte. Donc cela veut dire que nous devons, si nous voulons bénéficier de ce paradis, effectivement, de ce jardin, revenir à Adam et Ève avant la chute. La chute, ce n'est pas le fait d'avoir croqué une pomme, c'est le péché originel. Et le péché originel, c'est le péché d'orgueil. C'est le péché de se dire « Je veux, moi, remplacer Dieu, je suis le centre du monde, Dieu, je m'en moque, il n'y a que moi qui mérite d'avoir tout, la connaissance, le choix de ce qui est bien et mal, tout et tout et tout et tout le reste. » Et c'est ça le péché. Et donc revenir dans l'humilité de ne pas se prétendre pour Dieu, mais d'accepter de rester une créature, d'accepter que l'on n'est pas propriétaire du jardin ni du champ, mais que c'est Dieu lui-même qui est le seul propriétaire. Et ainsi, la nudité, je crois, c'est d'accepter justement d'être imparfait. Adam et Ève, on se sont fait des pagnes parce que dès le moment que l'on prétend être le centre du monde, nos propres imperfections éclatent au grand jour et deviennent insupportables. La nudité dans la Bible, c'est considéré comme étant l'imperfection. On dit que la honte de ta nudité ne paraisse pas, parce qu'il est vrai que souvent nos vêtements nous mettent en valeur et que la nudité pure n'est pas toujours très agréable. Donc la nudité, c'est notre imperfection. Et la question qui est là, c'est de savoir comment nous gérons nos propres imperfections, c'est-à-dire nos échecs, nos deuils, nos manquements. Alors il y a plusieurs solutions. Il y a la mauvaise solution d'Adam et Ève, qui consiste à essayer de les cacher soi-même. Je vais les masquer, je vais essayer de faire en sorte qu'on ne les voit pas. Je vais me les cacher à moi-même et je vais essayer de les cacher à Dieu. Et de faire en pour essayer de donner bonne figure. Mais ça ne trompe personne. Parce que on peut tromper un peu nos prochains, mais pas longtemps. Et en tout cas, ce que l'on ne peut pas tromper, c'est Dieu lui-même qui voit au cœur et nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque nous essayons de nous cacher nos propres erreurs, finalement, notre imperfection nous ressaute au visage et nous culpabilise et nous empêche de vivre. Et donc, ce que veut nous dire là le texte, c'est que peut-être devons-nous accepter de paraître nus devant Dieu. Accepter de reconnaître sa faute, accepter de l'assumer et d'attendre que ce soit lui qui nous vête, en quelque sorte, et que ce ne soit pas nous-mêmes qui le fassions. Et le texte de Thomas nous dit que ce qui est beau, ce n'est pas finalement de se mettre tout nu, mais c'est de se mettre tout nu sans en avoir honte. Ça, c'est assez intéressant. Se mettre tout nu, c'est ce que nous appelons dans notre jargon liturgique la confession des péchés. Voilà, Seigneur, je suis imparfait, mais je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux ? Et j'en ai pas honte, oui, parce que finalement, c'est affreux de se mettre tout nu et de se dire toujours « Mais je suis imparfait, je ne suis pas bien, je suis pas, j'ai pas fait ce que je... » Et ça bloque aussi, ça ne permet pas d'avancer. Et la juste attitude, c'est de ne pas en rester à la culpabilité, mais de se sentir aimé et pardonné. Et justement, se mettre tout nu devant Dieu, parce que, expérience que vous avez, devant qui se met-on tout nu? Eh bien, on se met tout nu devant celui dont on ne peut pas douter de l'amour, devant celui que l'on aime, ou devant celui en qui on a confiance. On se met tout nu devant son conjoint parce qu'on sait qu'il, lui, il vous aime, et que donc il ne sera pas là à ricaner, ou qu'il ne sera pas là à trouver que vous n'êtes pas beau, pas ceci ou pas cela. Ou alors on se met tout nu devant son médecin parce qu'on a confiance en lui. Mais on ne se met pas tout nu devant n'importe qui. Et se mettre tout nu devant Dieu, c'est peut-être justement lui dire « Seigneur, moi j'ai confiance en toi, parce que je crois dans ton amour, et parce que je crois que toi tu peux me regarder à nu sans me condamner, sans ricaner, sans te moquer, et sans considérer que je suis trop moche pour être regardé. » Être sûr de l'amour de Dieu, être sûr que lui ne tiendra pas compte de notre imperfection, et arriver à vivre dans cette confiance totale en Dieu, parce que l'on sait que lui nous pardonne. C'est ce thème qui est développé si bien par Luther, qui dit que le sens de tout le christianisme, c'est de dire, de prendre conscience, pardon, du fait que l'on est à la fois pécheur et pardonné. Oui, je suis pécheur, mais je suis pardonné. Si vous gardez que le pécheur, vous vivez dans la culpabilité et vous, le scrupule, vous ne pouvez plus rien faire. Si vous ne restez que dans le pardon et que vous oubliez que vous êtes pécheur, alors vous faites n'importe quoi. Tout est possible, tout est permis, c'est le délire. Eh bien non, je suis pardonné, mais je me souviens que je suis pécheur. Et je suis pécheur, mais je ne suis pas névrosé parce que je sais que je suis pardonné. Comme le petit enfant qui sait se mettre tout nu et qui sait en même temps ne pas en avoir honte devant Dieu. Bon, alors ça, je comprends à peu près. Et puis enfin, je pourrais terminer sur la nudité en disant, je l'ai cité tout à l'heure, en parlant de ce petit enfant tout nu qui vient de naître. Lui, il est tout nu. Et être tout nu, c'est se reconnaître comme un petit enfant qui vient de naître, qui est dans une situation de totale dépendance vis-à-vis de ses parents. Et nous sommes comme des petits-enfants tout nus, qui n'avons rien. Nous sommes dans une totale dépendance vis-à-vis de Dieu, comme un petit nouveau-né par rapport à sa mère. Alors nous avançons doucement dans notre texte, mais après ça devient plus compliqué. Parce qu'il y a, vous savez, cette demande, ils leur disent « Laissez-nous notre champ », alors ils le leur laissent et ils leur donnent. Là ça devient compliqué parce que personne ne sait qui doit-on mettre sous ces « ils ». Qui dit « Laissez-nous notre champ » ? Et les traductions veulent toujours trouver un sens, et certaines traductions disent, ben évidemment ce sont les maîtres qui arrivent et qui disent aux enfants, poussez-vous, laissez-nous notre champ, alors les enfants s'en vont. Et d'autres traducteurs disent, non, c'est pas ça, c'est les petits-enfants qui disent aux maîtres, laissez-nous le champ, c'est-à-dire nous voulons nous y installer, alors les maîtres leur laissent. Il y a les deux solutions. Il faut les examiner toutes les deux pour savoir laquelle est la bonne, dirais-je. La première, ça serait Dieu qui arrive et qui, à un moment donné, dit « Laissez-nous l'autre champ », c'est-à-dire « Allez, vous ne méritez pas cela, allez-vous-en ». C'est peut-être une forme de ce que les chrétiens ont appelé le jugement dernier. Alors que se passe-t-il là? Eh bien, il y aurait la bonne attitude des enfants qui d'abord se mettent tout nus, je l'ai dit, donc ne prétendent à rien. Ils n'argumentent pas. Ils montrent simplement leur faiblesse en disant « Seigneur, tu as raison, moi je n'ai rien, je ne peux prétendre à rien. » Et ensuite, autre bonne attitude des enfants qui disent « D'accord, je ne mérite même pas ce champ, j'y renonce, je m'en vais, je l'abandonne parce qu'il n'est pas à moi et finalement je ne peux absolument pas prétendre qu'il soit à moi. » Il peut y avoir là quelque chose d'assez beau, du chrétien qui finalement gagne le champ, puisqu'en fin de compte, les maîtres donnent le champ aux disciples. Donc finalement, ça se termine bien, je dis ça pour ceux qui ont peur que ça se termine mal, mais qu'à un moment donné, être sauvé doit passer par un moment où l'on renonce même tellement à tout que l'on renonce même à être sauvé, et où l'on dit, c'est vrai, finalement ça n'est pas la question, de toute façon je ne mérite pas d'être sauvé et j'accepte même d'être rien et de ne pas être sauvé. Je suis prêt même à renoncer au salut. C'est une belle image que l'on trouve dans nos évangiles, par exemple l'enfant prodigue qui revient vers son père en disant « Je ne suis même pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un esclave. » Et c'est à ce moment-là que le père l'embrasse et lui dit « Mon fils était mort et il est revenu à la vie ». Lorsque le chrétien, justement, va jusqu'au bout du dessaisissement et jusqu'au bout de sa prétention et accepte même de ne même pas prétendre au salut et dit à Dieu « Je ne mérite rien, même pas d'être sauvé ». Et ce salut, eh bien, c'est vrai, je m'y suis un peu installé, mais je ne le mérite même pas et j'y renonce, d'accord ? Je n'y vais pas. Sainte Thérèse disait que si elle devait renoncer à son salut, même pour être sauvée, elle le ferait. Et effectivement, je crois que c'est ça l'extrême grandeur du chrétien qui accepte même de renoncer à toute prétention et même à celle d'être sauvé. Et que c'est ça qui le sauve, justement. Lorsque je ne cherche même plus à me sauver. Et c'est aussi ce qui est dit dans l'Évangile quand le Christ dit « Qui veut sauver sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Et autrement dit, je reconnais simplement que je ne mérite rien. Tant pis si je ne suis pas sauvé, mais je reconnais la seigneurie de Dieu. Et je reconnais qu'à Dieu seul appartient le salut, le chant, la gloire, la paix, la joie, la justice, le paradis. C'est à lui. Je ne le mérite même pas. Je suis prêt à ne pas y aller. Je ne demande rien. Et alors, Dieu nous y place, gratuitement. Il nous le donne. Ça devient à nous. Bon, ça semble bien. Alors, autre solution, vous disais-je, ça serait que ce soit les enfants qui crient à Dieu « Laissez-nous notre chant ». C'est-à-dire, ils réclament, ils appellent. Et finalement, ce n'est pas faux non plus, cette histoire. Parce que peut-être que le chrétien aussi doit être capable un jour de savoir ce qu'il veut et de le demander, de le réclamer avec persévérance. Et je crois que le chrétien ne doit pas simplement se dire « Oh ben c'est bon, hein, puisque Dieu m'aime et me sauve, restons là ». Mais il doit toute sa vie réclamer, appeler, demander, supplier Dieu en lui disant « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, donne-moi ton esprit, Seigneur, donne-moi ton pardon, donne-moi ton amour, donne-moi ta présence ». Parce que si nous ne le demandons pas, il ne nous le donnera pas. Et ça, c'est aussi très présent dans les évangiles. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez, l'on vous donnera. Et Paul qui dit, priez avec persévérance, priez sans cesse. Demandez. Nous devons demander à Dieu qu'il nous accepte dans sa présence, qu'il nous accepte dans son paradis. Et nous devons le demander avec insistance, persévérance, sans arrêt et sans cesse. La prière, ça n'est pas de demander des choses matérielles. La seule prière, c'est celle qui est dite dans le psaume 27. Il y a une seule chose que je demande à Dieu et que je demande sans cesse. C'est d'habiter la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Voilà ce que l'on demande à Dieu. D'être chez lui, d'habiter dans sa maison. Je ne le mérite pas, etc. D'accord, mais je lui demande de tout mon cœur. Je le supplie, Seigneur, fais-moi entrer chez toi. Et je crois que être chrétien, c'est ça. Ça n'est pas s'installer de force ou se considérer comme propriétaire de la présence de Dieu, mais la réclamer avec persévérance et continuité. Alors finalement, laquelle des deux solutions est la bonne ? Ben, je suis un peu embarrassé. Parce que je me demande si en fait les traducteurs ne sont pas plus sots que le texte lui-même, et c'est malheureusement souvent le cas, et que je suis persuadé que l'ambiguïté est voulue par celui qui a écrit le texte. Et qu'en fait, ces deux visions sont tellement belles et complémentaires que je pense que le chrétien doit être sans arrêt justement tiraillé dans cette dialectique entre ces deux attitudes. Certes, il est toujours tout nu devant Dieu, d'accord, mais en même temps, il doit à la fois renoncer au salut. Mais le renoncer au salut, ça n'est pas se dire « Oh bon, bah, tant pis, hein, puisque je suis perdu, allez, perdu pour perdu, vivons n'importe comment ». Non, c'est y renoncer, mais un renoncement qui n'est pas de l'indifférence ou du désintérêt. Et en même temps, c'est demander à Dieu, mais c'est une demande qui n'est pas une exigence. C'est une demande où je demande avec tellement d'humilité que je sais que je ne mérite rien. Et d'avoir le sentiment de sa faiblesse et de sa faute, mais que ce sentiment de cette faiblesse et de cette faute ne nous fasse pas renoncer à notre volonté d'être sauvés. Et le chrétien doit sans arrêt être tiraillé entre cela. Il est comme des petits enfants, faibles, qui ne valent rien, mais pourtant qui savent ce qu'ils veulent et qui se battent pour ça. Et nous devons ainsi rester, je crois, dans cette dualité dont je vous parlais de Luther. Je suis pécheur et pardonné. Je suis pécheur, donc je dis à Dieu, oui, je ne mérite rien et je m'en vais. Et je suis pardonné, donc je dis à Dieu, laisse-moi le champ, je veux y être, je veux m'y installer. Et Dieu, à la fois, nous dit, tu ne le mérites pas, et en même temps nous dit, installe-toi. Et sans arrêt, être chrétien, c'est rester sur la lame de couteau qui fait que nous ne tombons ni d'un côté ni de l'autre, où nous ne nous sentons ni trop sauvés ni trop pardonnés. Et en même temps, c'est être finalement dans ce champ. Parce que alors, dans tous les cas, Dieu nous donne son champ, qui est ce jardin d'Éden, ce jardin de délices, c'est ce que veut dire Éden, ce jardin où l'on n'a plus peur, comme dit l'évangile de Thomas. Ils n'ont plus peur, c'est-à-dire qu'on est dans la paix de Dieu, qu'on est au bénéfice de tous les fruits de Dieu, de tous ces fruits exquis, et en particulier de l'arbre de la vie, qui est la vraie vie profonde et éternelle, l'arbre de la vie qui mérite.